Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans l'enfer du Nord pour cette cinquième étape du Tour de France aujourd'hui. 157 km entre Lille et Wallers, le peloton qui a quitté la capitale des Flandres il y a de cela quelques instants en direction donc des pavés qui évidemment font beaucoup fantasmer tous les suiveurs du Tour de France et tous les passionnés de cyclisme qui attendent aujourd'hui monts et merveilles de cette cinquième étape. On va voir ce que ça donnera. En tout cas, il y a de quoi faire et on n'est pas dépendant de la météo. C'est toujours... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de vent, il n'y a pas besoin de pluie, il n'y a pas besoin de brouillard. On a les pavés pour nous régaler et pour inquiéter évidemment les coureurs de ce peloton. On va vivre évidemment cette étape comme tous les jours depuis le départ de cette grande boucle, il y a de cela quelques jours à Copenhague. Nous sommes en compagnie notamment de notre druide Cyril Guimard, le seul à avoir franchi en course les pavés, notamment la tranchée d'Arambert qui se trouve juste derrière nous puisque nous sommes à Wallers, à Wallers plus exactement, où sera jugé tout à l'heure l'arrivée. Ça va mon Cyril ?
Eh bien ça va, d'autant que
cette année... Est-ce que tu as allé repérer les pavés d'Arambert ou pas encore ?
Non, je suis passé dessus en vélo, donc ça va, et en course, donc je les connais bien et j'ai pas du tout envie d'aller les voir. Non, même s'ils sont sympas pour certaines personnes, d'ailleurs de notre rédaction ou de votre rédaction, qui sont promenées il y a quelques mois sur la tranchée, moi je préfère les regarder de loin.
Exactement, toi tu les as franchis en course. Jérôme Coppel n'a pas eu ce privilège, cet honneur, il nous l'expliquait hier. Trop gabarit, trop léger.
C'est ça, trop léger pour faire Paris-Roubaix, mais j'ai quand même fait des pavés sur le Tour de France aussi,
évidemment.
Mais pas la tranchée d'Arambert. Non, mais t'es toujours en train de me dévaloriser quand même.
D'ici la fin du Tour de France, je pense que tu pourrais franchir la tranchée d'Arambert.
Ah, si je reste dans ta roue, c'est sûr que je serais plus trop léger. Hein. Je pourrais y aller tranquillement.
Ça va, mon Jérôme ?
Eh bien, bien, et toi ?
Bah, écoute, ouais, en pleine forme. On est content, évidemment, on est ravis parce que cette étape, elle fleure bon, les grands moments de ce Tour de France, on l'espère évidemment. Et on va vivre tout ça jusqu'à 18h. Pierre-Yves Leroux est également avec nous, comme tous les jours. Salut Pierre-Yves.
Salut Christophe.
Lui, il a franchi. Alors, vous allez l'entendre tout à l'heure, puisqu'avec Arnaud Souk, ils ont fait la reconnaissance chacun une année. On va voir quel est le plus performant des deux. Ouais, dans la tranchée. Bon, ils n'ont pas fait les 2000.
Pourquoi tu rigoles?
Il n'y a pas d'image.
J'ai regardé les images. C'est énorme. Je vous conseille d'aller sur Internet et de trouver ça. Vous tapez
Les champions en action, vous tapez.
Et vous trouvez à la fois la reco d'Arnaud Souk et celle de Pierre-Yves Leroux. Et
c'est bien pour ça que je disais qu'on avait quelques personnes ici dans notre rédac qui avaient joué au coureur de Paris-Roubaix.
J'ai fait un petit montage, je vous écouterai ça tout à l'heure.
La réalité, forcément.
Notre gars, un peu essoufflé, évidemment, après 200 mètres sur les pavés. Hein, c'est quelque chose, quand même, à Rambert. Il faut dire que vous avez choisi le plus dur aussi, les gars. Hein.
Ah bah nous on rigole pas hein, quand on veut tester quelque chose. Non mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est une expérience à réaliser parce qu'on se rend compte vraiment de la difficulté de l'exercice et c'est simplement sur 2 km.
Et c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des locations de vélo ici à Rambert ou comment on fait?
Non, nous on est des privilégiés, nous avait déposé un vélo juste à l'entrée de la trouée.
Mais des VTT non?
Non, vélo de course. En revanche, j'ai réussi à percer, moi, quand même, en 3 km.
Alors, percer, c'est crever, hein. Peut-être qu'on peut préciser ce que c'est.
Ah oui, tout à fait.
t'es devenu un vrai cycliste, du coup, il a même les termes cycliste, il est trop fort.
Ah non, mais si tu le voyais, franchement, c'était pas un vrai cycliste. Hein.
Oh, jaloux.
Arnaud Souk, également, donc, s'est essayé au pavé de la tranchée. Salut Arnaud.
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Effectivement, ouais, je m'y étais essayé. Je crois qu'il pleuvait ce jour-là, si je me souviens bien. Quand je m'y étais essayé. Voilà.
T'étais pas sous la pluie, mais effectivement, le ciel était lourd et je pense qu'il avait dû pleuvoir quelques heures auparavant. Voilà. Toi aussi, t'étais pas très à l'aise. Faut dire que c'est quand même assez particulier, quand même. Hein.
Ah, c'est assez particulier. C'est sûr que c'est pas les pavés des Champs-Élysées que tu as l'habitude de prendre en vélib, Christophe, pour te rendre au travail. On est quand même sur des pavés autrement plus difficiles à emprunter, particulièrement en vélo. Alors moi, du coup, au bout de 200 mètres, je crois que j'étais allé sur le côté. Là, il y a un petit chemin en terre tout lisse. Et je crois qu'au bout de 200 mètres, j'avais fait ça. Je m'étais dit bon, allez, c'est bon. Hein. Ça va un peu.
Sachant que c'est interdit aux coureurs, puisqu'il y a des barrières qui sont mises et eux n'ont pas le droit d'aller sur ce petit revêtement tout lisse. Mais c'est vrai que C'est quand même tentant.
C'est assez tentant, évidemment.
Mais j'aimerais bien quand même que tu réalises cette expérience, Christophe.
Mais oui, mais bien sûr. Mais attendez, on n'a pas un vélo là. Mettez-moi un vélo, vous allez voir. Je vous fais le direct de là-bas, moi.
Avec ta puissance, moi, je pense que ça devrait.
Voilà, je vole au-dessus des pavés, évidemment.
Collé au pavé,
au fond du pavé, bloqué dans la tranchée. Très bien. Alors, la tranchée d'Arenberg, malheureusement pour nous et heureusement pour les coureurs aujourd'hui du peloton, ils ne la pratiqueront pas tout à l'heure puisqu'on s'arrêtera juste avant la tranchée. Mais ils vont quand même avoir de quoi faire tout à l'heure. Avec combien de secteurs pavés, Pierre-Yves, au
11 secteurs pavés sur les 80 derniers kilomètres, 19 km 400 au total. Et on sent que c'est pas une étape comme les autres parce qu'aujourd'hui, ça ferraille dur à l'avant du peloton pour réussir à se faire la belle. Et il y a un garçon qui est sorti, c'est
Magnus Cort Nielsen.
Et oui.
Et pourtant, il n'y a pas de point du grimpeur à aller chercher. Et bien, il a décidé de faire le Tour de France.
Je pense qu'il nous fait une Jasper Stuyven, pas une Jasper Stuyven, une Jasper Philipsen. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des qu'il y a des points à aller chercher, comme le Belge hier qui pensait avoir gagné. Mais non. Mais attention, c'est un coureur de talent qui peut, pourquoi pas, aussi aller viser une victoire d'étape aujourd'hui. Il est parti surtout avec des garçons qui ont également la connaissance du pavé, c'est-à-dire notamment ce bon vieux Taco Van der Horn et un autre garçon du Nord, un Norvégien, Edvald Boasenhagen de l'équipe Total Energy.
Très bien, il y a donc deux coureurs dans le Tour de France, Cort Nielsen et Van Aert.
Les autres, c'est ça, pour
on
l'instant.
On va peut-être parler d'ici quelques jours. Arnaud, l'ambiance évidemment, alors tu n'es pas encore dans les secteurs pavés puisqu'on les abordera aux alentours de 15h30 au départ de Lille. Il y a du monde, on est dans une véritable région de cyclisme ici dans le Nord. Hein.
Et oui, forcément, on aime beaucoup le vélo ici, Lille qui se situe vraiment à quelques kilomètres du vélodrome André Pétrieux de Roubaix, où est bien jugé l'arrivée de l'enfer du Nord tous les deuxièmes dimanches d'avril. Donc forcément, on est venu en nombre de tous les véloclubs de la région et du coin, mais aussi le public, pas forcément cycliste dans des clubs, qui est venu au bord de la route. Juste quelques mots, puisqu'on parle quand même de ces secteurs pavés, on aura le loisir d'en reparler toute l'après-midi, mais on en empruntera certains qui seront totalement inédits cet après-midi. J'aurai l'occasion de vous en reparler si vous le souhaitez, parce que voilà, c'est vrai que l'organisateur a une sorte de bible des pavés à sa disposition, une bible qu'il entretient lui-même, dans laquelle il y a à peu près 85 km de secteurs pavés, et il y en a 15 qui n'ont jamais été utilisés, et sur ces 15, on en prendra notamment quelques-uns aujourd'hui à Émeur-Chicourt, notamment deux secteurs pavés qui seront absolument inédits. Et puis, chose assez amusante également, puisque ces secteurs pavés, il y en a par dizaines et dizaines et dizaines, et peut-être même par centaines dans la région. Tous ne sont évidemment pas répertoriés, au point que par exemple le premier secteur du jour, le secteur numéro 11, l'organisation du Tour de France le croyait inédit, jusqu'à ce qu'elle appelle la mairie de Villers-au-Tertre en octobre dernier. Elle se rend compte que le Tour 1983 était passé par ce secteur. Bref, il y a tout un tas d'histoires autour de ces chemins qui sont finalement des chemins qui servent surtout aux agriculteurs et qui étaient des chemins antiques à l'époque de la mine notamment.
Exactement, on passe avec les tracteurs et certains ne sont pas vraiment praticables pour les vélos, d'autres eh bien, sont entretenus régulièrement tous les ans pour que Paris-Roubaix puisse passer sur ces chemins ruraux. Alors c'est vrai que c'est un peu spécial aujourd'hui, Jérôme, c'est-à-dire qu'on part dans l'autre sens, c'est-à-dire on part de Lille en direction de Valenciennes, hein, puisqu'on est dans la banlieue de Valenciennes ici à Wallers. C'est la raison pour laquelle on peut pratiquer des secteurs pavés qui ne sont pas utilisés sur Paris-Roubaix, parce que sur Paris-Roubaix, on part de Compiègne, il faut aller quand même jusqu'à Roubaix, tout là-haut. Donc on ne peut pas traîner autour de Valenciennes.
Non, on ne peut pas traîner autour de Valenciennes. Et puis Paris-Roubaix, c'est le mythe aussi. C'est bien d'avoir toujours les mêmes secteurs pavés, etc. On va pas enlever le carrefour de l'Arbre pour aller prendre un autre secteur pavé à côté. Sur le Tour de France, ils peuvent se permettre d'aller découvrir d'autres pavés. Tu disais que c'était beaucoup de travail pour entretenir, etc. Lundi, on avait les grandes gueules du Tour délocalisées à Wallers. On a parlé avec le maire et il expliquait que la trouée d'Arenberg, après la course, ils doivent laisser des policiers parce que tous les gens veulent arracher un pavé en souvenir de la course. Donc il disait que c'était une grosse organisation avant pour les remettre en état, mais après pour les maintenir en état, parce que les gens, ils veulent tous repartir avec un petit souvenir.
Ouais, alors il y a aussi une particularité, c'est-à-dire que habituellement Paris-Roubaix se fait en avril, aux alentours du 20 avril, Cyril. La végétation n'est pas encore très florissante à l'époque, même si certaines années, avec le réchauffement climatique, ça va plus vite. Mais là, on est en plein été, donc il y a de l'herbe un peu partout sur les pavés. Donc il faut vraiment les bichonner et passer la... On verra avec Dédé s'il a fait du boulot aujourd'hui, s'il a passé son gros Dédé sur les secteurs pavés. Mais voilà, il faut les entretenir, parce que s'il y a trop d'herbe sur les secteurs pavés, c'est pas très pratique pour le vélo.
Son gros Léon.
Le gros Léon. Oui, il va avoir du boulot aujourd'hui s'il faut qu'il aille arracher toutes les herbes qui poussent entre les pavés. Il sera pas rentré ce soir. Hein. Oui, alors il faut savoir que, par exemple, sur les pavés, un des gros problèmes pour la tranchée d'Arembert, c'est qu'il n'y a pas de circulation sur ces pavés. Et le fait qu'il n'y a pas de circulation...
Oui. Il n'y a pas de tracteur qui passe là. Non, c'est interdit.
C'est interdit de passer. Comme disait Jérôme, c'est interdit de piquer les pavés. Mais la circulation est quand même très, très réglementée. Et le fait qu'il n'y a pas le passage régulier... De voitures, le vélo, mais là, il faut des gros poids, eh bien, l'herbe s'en donne à cœur joie pour pousser, donc il faut les entretenir en permanence. Là où passent les tracteurs, les voitures,
y a pas besoin, ça passe.
On est dans un fonctionnement, dans un fonctionnement normal. Donc voilà, les pavés, eh bien, à une époque, on les recouvrait de bitume, on n'en voulait plus. Et puis, à force de parler de l'enfer du Nord, on en voulait encore moins, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, Paris-Roubaix ne pouvait pas mourir et qu'il fallait protéger ces secteurs pavés. Non seulement aujourd'hui, on les protège, mais on en fabrique de nouveaux.
Mmh. Alors, qui n'ont pas évidemment la même puissance que les pavés originaux, qui sont un peu...
Oui, mais dans 50 ans...
Ah,
oui.
Dans 50 ans, ben on sera plus là.
Voire on en découvre, hein, messieurs.
Oui.
On en découvre. Il y avait l'histoire, bitume, alors je ne sais plus exactement où c'est, mais il y avait l'histoire de cette très vieille dame dans le Cambrésis qui, un jour, alors que justement ASO était un petit peu en recherche de nouveaux secteurs pavés, avait dit à certaines personne de l'organisation, mais il me semble que ma mère ou que ma grand-mère m'avait parlé d'un secteur pavé qui était en dessous de cette route bitumée, et on avait fait débitumer une route sous laquelle on avait trouvé justement des pavés. Voilà, on avait remis au goût du jour un secteur pavé qui n'avait jamais servi évidemment à une course cycliste et qui avait été bitumé quelques années avant.
Très bien, voilà l'histoire des pavés. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on n'est pas encore dans les premiers secteurs. On est à 144 km de l'arrivée de cette étape. On va faire un premier top course parce qu'il se passe des choses à la différence des jours précédents. Oui, une vraie course dans ce Tour de France et on va se régaler, on l'espère, aujourd'hui. Le top course est avec Pierre-Yves.
143 km à parcourir et il y a une chose qui ne change pas, c'est que Magnus Cort Nielsen est toujours à l'avant. Il est accompagné de deux hommes, Edvald Boasson-Hagen et Taco van der Horn. Et puis derrière, il y a un petit groupe de trois qui s'est formé également avec Alexis Goujard, Simon Clark et Nelson Poles. Ils ont 22 secondes de retard. Le peloton, lui, est à 34 secondes. Des trois hommes de tête, donc pas grand-chose encore. Ça roule à l'avant du peloton, donc je ne suis pas sûr que ça suffise pour le moment et que ça soit la bonne. Donc attention, pour les paris, patientez encore un peu. 143 km de l'arrivée, deux petits groupes de trois devant le peloton.
RMC
Intégral Tour.
Voilà, 143 km encore à parcourir et toujours le même homme, celui qui porte des poids quasiment depuis le début de ce Tour de France, et une belle moustache blonde, le viking danois Cort Nielsen, qui est donc accompagné de deux hommes aujourd'hui. Mais on a l'impression que le rythme est quand même plus élevé que les jours précédents, Cyril, ou je me trompe?
Non, très bonne vue, Christophe, puisque dès le départ, eh bien, on a retrouvé une course cycliste digne de ce nom. Et trois coureurs ont commencé à sortir. Il y a un groupe d'une dizaine qui était parti en contre, mais qui a été repris par le peloton. Et puis, il y a un nouveau groupe de trois coureurs qui est ressorti avec Goujard, entre autres. Et actuellement, eh bien, les écarts sont de 20, 30, 40 secondes. Ça va très, très vite et la vraie bagarre est lancée.
Très bien, allez, on se retrouve dans un instant sur la route du Tour. 142 km encore à parcourir. On vous annonce que le premier secteur pavé sera franchi aux alentours de 15h30. Restez là, et si vous avez envie de faire une petite sieste, c'est maintenant, pas plus tard. À tout de suite sur la route du Tour.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
La cinquième étape du Tour de France est au programme des coureurs aujourd'hui, l'une des plus attendues de cette édition 2022. Après un début de course plutôt tranquille, et bien aujourd'hui nous abordons les pavés de Paris-Roubaix, 11 secteurs, 19 km à escalader les pavés, donc c'est pas encore la haute montagne, mais c'est peut-être plus dangereux pour les coureurs. Il peut y avoir de plus gros écarts aujourd'hui, en tous les cas c'est ce que nous ont dit les organisateurs de la course. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il devrait y avoir une course, et la course a déjà débuté. D'ailleurs, on va rappeler ce qui s'est passé avec une chute il y a quelques instants également. Pierre-Yves,
oui, Topcourt. Il y a du soleil effectivement sur la route du Tour, puisqu'il a fait un beau soleil, Max Walscheid, le coureur de l'équipe Cofidis, il y a quelques instants, mais il a fait signe que ça allait. Il est reparti. Tu veux un petit top course avec
allez, le top course, allez, on y va. Le jingle, il est là.
Allons-y.
Voilà.
Voilà, on fait le point. Après quelques kilomètres, trois hommes en tête, un Norvégien, un Danois et un Néerlandais. Edvald Boasson-Hagen, c'est le Norvégien. Magnus Cort Nielsen, vous le connaissez, c'est le Danois qui porte le maillot à poids. Taco van der Horn, c'est le Néerlandais. Derrière, à quelques secondes, une trentaine de secondes, trois autres garçons qui sont partis en contre. Alexis Goujard, Nelson Poles et Simon Clark. Le peloton est à une minute exactement, emmené par des garçons comme McNulty ou encore Cataneo ou Marco Haller. C'est terminé, me fait signe Jérôme. Effectivement, le peloton est maintenant en une seule ligne. 5-6 coureurs de front, à moins que ça relance. Mais à 137 km de l'arrivée, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une échappée à se former avec 6 hommes pour cette étape des pavés.
RMC
Intégral Tour.
Voilà, une vraie course aujourd'hui qui a donc débuté au départ de Lille, tout à l'heure en direction de Wallers. On est à 137 km de l'arrivée. On va tout de suite faire la petite carte postale de Arnaud, parce qu'après on va rentrer vraiment dans le dur. La carte postale, je crois qu'on va nous parler des
RMC, la carte postale de l'Intégral Tour.
Arnaud.
Oui, un instantané en noir et blanc aujourd'hui, une plongée au cœur du 19e siècle à travers notamment ces quelques lignes de Germinal, roman documenté de Zola, qui décrit la vie dans les années 1800 dans ce nord de la France, ce nord pavé, ce nord minier que nous arpentons aujourd'hui au nord. C'était les corons, la terre, c'était le charbon d'ailleurs. Zola, dans les premières lignes de Germinal, dépeint dans la nuit glaciale un vieillard nommé Bonnemort qui tousse de tout son corps et le crache au sol, une salive très sombre noircie par 50 ans de travail à la mine. Crachez-vous du sang, l'interroge alors le héros du livre Étienne Lantier. Non du sang mais du charbon, répond-il. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours. La scène se déroule au pied d'un terri, la Marchienne, non loin du final de notre étape du jour. Elle immortalise cet autre temps où dès leur plus jeune âge, les enfants étaient envoyés à la mine pour rapporter au foyer quelques sous nécessaires à la vie quotidienne. Au coron, les maisons s'entassent par dizaines, toutes identiques aux briques d'un rouge orangé typique des Flandres et construites spécialement par les compagnies exploitantes pour les mineurs. Levé, 4h du matin, départ à la fosse groupée, travail au combien difficile. Difficile et dangereux. Effondrement, coup de grisou, 72 000 gueules noires y ont laissé la vie en France. Plusieurs milliers, rien que dans le Nord. Et puis classé depuis 10 ans désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dont l'activité a cessé à la fin du 20e siècle, fait aujourd'hui la fierté de toute une région. L'un des emblèmes, vous y êtes messieurs, c'est le musée de la mine de Wallers. Il offrira tout à l'heure, du haut de ses chevalements, tout au bout de cette étape, une sublime image de ce patrimoine, la mine de Wallers à Rambert, dont la simple évocation fera aussi frémir les cœurs de tous les amoureux de vélo. C'est là dans les années 40 qu'un certain Jean Stablinski descendra pour subvenir aux besoins d'une famille décimée par la guerre. Deux décennies plus tard, fort de cette courte expérience de quelques mois, le champion du monde de cyclisme 62 chuchotera à l'oreille d'Albert Bouvet, alors responsable du parcours de Paris-Roubaix, l'existence d'un chemin pavé forestier qu'on baptisera pour l'éternité la Trouée d'Arambert.
Merci Arnaud, la Trouée d'Arambert et le mine. On est juste sous le carreau là de la mine d'Arambert, qui a été l'une des plus importantes de la région.
Combien de millions de tonnes ?
32 millions de tonnes de charbon ont été extraits du sous-sol. Voilà, juste en dessous, c'est un véritable gruyère. Il faut faire attention. La mine qui descend jusqu'à 600 mètres, hein, 600 mètres de profondeur. Et c'est à cette profondeur.
On veut entendre, le refrain.
Mettez-nous Bachelet là. Ah. Vous voyez ça ?
Cyril va chanter.
On se croirait à Bollard. On se croirait à Bollard, toi. On va faire pleurer Jean Baumel s'il nous écoute.
Ah oui.
Thibaut.
Voilà, j'en ai le correspondant dans la région et c'est vraiment un endroit mythique. Et d'ailleurs, comme le disait Arnaud, aujourd'hui, eh bien, ce décor est intact parce qu'il sert notamment tous les films qui traitent de la mine. Germinal a été tourné ici. Il y a d'ailleurs un espace consacré à Claude Berry, le réalisateur du film. Et puis, voilà, on peut visiter le musée. Il y a eu une série également qui a été tournée là, plusieurs films. Bref, voilà, on est au cœur du patrimoine du Nord et donc ces mines de charbon qui sont fermées à la fin des années 80-89 pour la tranchée, enfin la tranchée, mais pour la fosse d'Arambert. Retour sur le vélo, 134 km de l'arrivée et une petite avance qui commence à grandir pour les trois hommes de tête, Pierre-Yves.
Oui, et ça va surtout se regrouper puisqu'il n'y a plus que 6 secondes entre les deux groupes de tête. Donc voilà, l'échappée du jour est en train de se former avec 6 hommes, dont un Français, Alexis Goujat, et à 1 minute 15 derrière le peloton, un peloton qui vient de passer dans la commune de Bouvines, la fameuse bataille de Bouvines, 1214, Philippe Auguste. La bataille, c'est pour aujourd'hui, pour ce peloton avec les pavés au programme. 20 km tout à l'heure de secteur pavé divisé en 11 morceaux de choix dans les 80 derniers kilomètres. Voilà, ils sont 6 en tête à 134 km de l'arrivée.
Voilà, une vraie échappée digne de ce nom, Jérôme. Enfin, sur le Tour de France.
Bah, on savait que sur cette étape-là, ça allait bouger, hein, que les coureurs allaient vouloir prendre l'échappée. Alors, on dit à chaque fois que c'est mieux d'avoir un coup d'avance sur toutes les étapes en règle générale, mais encore plus aujourd'hui parce que vous pouvez, voilà, si vous avez un problème mécanique, bah, au pire, vous allez repartir dans le peloton. Si vous n'êtes pas forcément le leader désigné de votre équipe, vous allez éventuellement servir de point d'appui un peu plus tard. Donc là, c'était hyper important de prendre les échappées. C'est pour ça qu'on a eu une grosse bagarre pendant un peu plus longtemps que d'habitude.
La grosse bagarre qui a débuté, Cyril, dans quel état d'esprit se trouvent les coureurs? Certains doivent être un petit peu inquiets, évidemment, aujourd'hui, à la bord de ces pavés, notamment ceux qui n'ont pas l'habitude de faire Paris-Roubaix et qui découvrent les pavés, finalement, une fois tous les 4-5 ans, lorsque le Tour se déplace sur les pavés du Nord.
Oui, tout à fait. C'est une étape toute particulière aujourd'hui, où plus que les autres jours, il y a deux courses dans la course. Il y a ceux qui n'ont rien à perdre et pour qui aller chercher la victoire d'étape est l'objectif principal. Et puis il y a ceux qui jouent le classement général et où là, c'est l'étape des plus grands risques. Une crevaison au mauvais moment, pris dans une chute, pris dans une cassure et vous pouvez perdre une minute, deux minutes, voire trois minutes. C'est déjà arrivé sur les tours précédents lorsque nous avions des pavés. Donc là, cette catégorie de coureurs qui jouent le classement général, eh bien, ils sont dans l'appréhension, dans la peur, justement, de l'incident qui va peut-être les mettre hors course pour le classement général final à Paris.
Et on se souvient tous de cette édition du Tour de France 2014 qui se déplaçait ici avec une
étape. Dans la boue.
Voilà, dans la boue. Il pleuvait des cordes, alors que sur Paris-Roubaix, il n'a pas plu pendant 25 ans, je crois, sauf l'année dernière. Mais l'année dernière, le Paris-Roubaix avait lieu à l'automne et non pas au printemps. Et ça avait été un chantier incroyable. En 2014, cette étape qui avait eh bien, marqué la fin des espoirs de Chris Froome et d'Alberto Contador, notamment.
Oui, Chris Froome qui était grand favori pour la victoire finale et qui avait été obligé de s'arrêter ce jour-là. On avait vu à la lutte devant des garçons comme Nibali, Fuglsang notamment, et d'autres spécialistes des pavés. Mais ça avait vraiment marqué le Tour de France cette année-là. En 2018, ça avait été un peu plus tranquille. Hein. C'était une édition où les pavés n'avaient pas posé beaucoup de problèmes.
Oui, 2018, je me rappelle même pas, pour être honnête. Moi, j'étais en 2015, donc ça m'a plus marqué l'année en 2015, mais pareil, ça avait pas fait trop de dégâts, c'était sec. Mais c'est vrai qu'on a on retrouve des coureurs. Christophe, tu parlais de l'édition 2014, donc Fuglsang qui a fait deuxième de cette étape-là est présent sur le Tour. Donc Nibali qui avait fait troisième avait gagné le Tour derrière. Peter Sagan avait déjà fait quatrième en 2014. Donc on sait que c'est un spécialiste. Il a gagné Paris-Roubaix, bien sûr, et c'est le favori de Cyril Guimard. Mais on va retrouver à peu près les mêmes que dans les éditions précédentes sur le Tour de France. Maintenant, pour être passé au village départ, avoir discuté avec quelques managers d'équipe, c'était pas du tout la même atmosphère que les autres fois. On sentait qu'il y avait vraiment du stress pour tout le monde.
Aujourd'hui, tu veux dire?
Aujourd'hui, ouais, bien sûr, ouais. Au départ aujourd'hui.
Par rapport aux étapes précédentes.
Ouais. Exactement. Alors même si d'habitude il y avait
le grand belt et inquiétait
voilà.
Un peu tout le monde.
Là, ça inquiétait aussi un peu tout le monde, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de stress sur une étape comme aujourd'hui qu'une grande étape de montagne, par exemple. Sur une grande étape de montagne, bon bah les jambes parlent, etc. Il y a moins d'aléas de course, de faits de course. normalement. Donc c'est vraiment c'était vraiment le gros stress au départ ce matin.
Et oui, parce que là, la panne de jambes, normalement, il n'y en a pas sur les pavés. En revanche, la panne technique, la panne mécanique, elle peut intervenir évidemment, les crevaisons, les chutes qui sont nombreuses sur les pavés.
Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de petits changements de matériel.
Oui.
Hein,
pour alors, faire... je te posais la question. Il y a pas de vélo particulier, mais il y a
alors, certains ont changé quand même les vélos. Ouais. Notamment, les équipes équipées par Specialized ont un vélo spécial. Ils ont enlevé les boyaux pour mettre du tubeless. Donc, c'est des pneus qui n'ont pas de chambre à air, qui ont normalement plus résistant à la crevaison. Et Peter Sagan notamment utilise un groupe, donc le passage de vitesse mécanique. Maintenant on sait que c'est électrique, et lui il a utilisé un mécanique, c'est pour éviter les risques de que la batterie se déconnecte par exemple, etc. Donc vraiment Sagan, on sent qu'il est
très
focus,
motivé,
ouais, et il veut éviter tous les risques, quoi.
Ben voilà, une bonne idée. On revient aux vraies valeurs, Cyril.
Au traditionnel.
Traditionnel, finalement, il y a rien.
Il y a qu'une chose qui me dérange, moi personnellement, c'est que sur une étape, surtout pour les coureurs qui jouent le classement général, c'est qu'ils sont partis avec des disques. Alors que quand on sait que si on a un incident mécanique, et pratiquement, on va dire, un des prétendants au Tour de France sur deux va être victime au minimum d'une crevaison ou de l'obligation de changer de vélo ou de changer de roue. Et quand on sait que pour changer une roue avec un disque plutôt qu'avec des patins, pratiquement vous multipliez par deux et demi le temps de réparation. Donc vous faites 20 secondes avec une roue à patins, vous en faites 40 avec une roue à disque.
Voilà, Cyril voudrait qu'on revienne aux roues, aux freins à patins, avec les pneus autour de la tête, la chambre à air.
Non, mais moi, c'est pas mon problème. On fait ce qu'on veut. Mais moi, personnellement, je serais pas parti avec des disques là, sur une étape aussi importante.
Ils changeront pas la roue tout de suite, à mon avis. Ils changeront tout de suite de vélo. Après, les mécanos feront le travail. Et s'il y a un petit moment de temporisation.
Mais changer de vélo, c'est pas évident. Ou alors, il faut
passer par équipier
à côté.
C'est pareil.
Non, Jérôme, tu peux pas changer de roue entre équipiers.
Non, mais c'est ce que je dis. Bon, ils changeront le vélo.
Ils changeront le vélo, mais si la voiture elle est à 3 minutes.
Il y a beaucoup de roues au bord de la route. Hein.
Voilà, exactement.
Si la voiture elle est à 3 minutes où tu viens de passer ton point de changement, là où tu vas voir tes assistants avec des roues, tu perds combien, quoi.
Mais ils changeront peut-être de vélo avec les équipiers.
Faut avoir les mêmes. Non, mais vous, attends. Là, vous cherchez tous les arguments pour dire ah bah non, mais c'est finalement bien d'avoir les disques. D'accord.
On dit pas que c'est bien. On dit
change
pas que
de disque.
Ils ont les disques. Va bien falloir qu'ils trouvent des solutions s'ils ont des problèmes. On sait qu'il y a toujours un coureur dans l'équipe qui a à peu près les codes similaires. S'il est là, bien sûr qu'ils changeront de vélo.
Ah bah s'il est devant, il faut aller le chercher. Hein. Fais demi-tour, t'as pas le droit.
T'inquiète pas, il trouve
des solutions. Encore avec des 78 tours. Ah, Arnaud, une petite info justement. Je crois qu'à la sortie de chaque secteur pavé, il y a des mécanos qui sont là avec du matériel adéquat. Hein.
Des couettes.
Mécano, kiné, assistant, évidemment les équipes ont dépêché beaucoup de monde sur les secteurs pavés, effectivement, pour avoir des roues. Ça va être le ravitaillement essentiel aujourd'hui, avoir des roues au cas où effectivement il y ait des crevaisons. Donc voilà, sachez que chaque équipe aura ses antennes en début et en fin de secteur pavé. Enfin surtout en fin de secteur pavé plutôt.
Très bien. Nous allons faire un petit détour par Wimbledon. Eric Salio est là, évidemment, avec ses fraises à la crème. Et avec un quart de finale féminin aujourd'hui. Bonjour Eric.
Bonjour à tous, good afternoon. Ouais, j'ai un menu assez copieux, en plus des fraises à la crème, puisqu'on a deux quarts de finale féminin, deux quarts de finale masculin. Puis je vous rajoute un peu de crème fraîche avec le quart de finale de double messieurs de Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin. Ça fait quelques heures qu'ils sont sur le cours numéro 2. Ils sont menés deux manches à une par l'Américain Rahm et l'Anglais Salisbury, mais ils mènent 4-2 dans la quatrième manche. Vous avez compris que ça se joue en 5-7. Hein. C'est étonnant, mais c'est la tradition ici à Wimbledon. Les doubles se déroulent au meilleur des 5-7. Donc on va suivre de près la performance des vétérans français, parce qu'ils sont plutôt jeunes, mais ce serait sympa pour eux d'accéder évidemment au dernier carré ici à Wimbledon. Sinon, le programme, eh bien, sur le cours numéro 1, c'est déjà parti entre Rybakina et Tomjanovic. Et puis dans quelques secondes, coup d'envoi du quart de finale entre Simona Halep et Amanda Anisimova.
Et ben voilà un beau programme. Tu vas pas pouvoir chômer cet après-midi. Merci Eric, on te retrouve évidemment tout au long de l'après-midi dans l'intégral tour. Il est 14h33, on revient dans un instant. On est à 127 km de l'arrivée. Le premier secteur pavé interviendra dans une cinquantaine de kilomètres maintenant. A tout à l'heure sur la route du tour sur RMC.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h36, vous êtes sur RMC, l'intégral tour, la cinquième étape aujourd'hui entre Lille et Wallers, à l'approche des secteurs pavés, des 11 secteurs pavés qui vont égayer notre journée et angoisser celle des coureurs de ce peloton. 176 coureurs, oui, toujours aucun abandon après 4 étapes, c'est quand même assez rare pour être signalé. On a évité cette année, pour le moment, en tous les cas, les grosses chutes collectives, et c'est tant mieux évidemment, tant mieux que tous les principaux leaders et principaux favoris de ce Tour de France sont encore en état d'aller remporter cette course. 124 km de l'arrivée, on va faire un nouveau top course avec Pierre.
2 minutes 42 d'avance pour les 6 hommes de tête. Un Français, Alexis Goujard, Simon Clark l'accompagne, Nelson Poles qui est maillot jaune virtuel puisqu'il est à 1 minute 20 à peu près au classement général. Taco van der Horn, Edvald Boasson-Hagen et Magnus Cort Nielsen sont partis en tête. 123 km et dans quelques kilomètres maintenant, le sprint intermédiaire. Les 6 hommes de tête ont 2 minutes 43 d'avance sur le peloton.
Et oui, sprint intermédiaire, le premier de la journée. Ah, le petit jingle, j'ai oublié le petit jingle.
RMC
Intégral Tour.
Le petit jingle, faut pas oublier le petit jingle, c'est important évidemment pour marquer le territoire. Oui, le premier sprint intermédiaire, Cyril, voilà, ça va intervenir dans quelques instants. On rappelle qu'ils sont 2-3 à viser le maillot vert, notamment Wout van Aert qui ne le porte pas en course mais qui est le leader de ce classement, ou encore Peter Sagan et Jakobsen. Donc aujourd'hui, a priori, pour certains ce sera compliqué d'aller au bout et aller chercher la victoire d'étape pour les sprinteurs, même si van Aert et Sagan font partie des grandissimes favoris de l'étape, mais bon, on va aller chercher quand même les points du sprint intermédiaire.
Oui, on va aller les chercher, mais il y a quand même 6 coureurs qui sont échappés actuellement, donc on ira chercher au mieux les points de la 7e place. Donc là, s'ils finissent roue dans roue, c'est un point d'écart par rapport à la place, donc ça n'aura pas une grande influence sur le classement.
Wout van Aert qui de toute manière possède maintenant une avance assez considérable, hein.
61 points
hier il a fait le trou effectivement, mais bon, il y a 70 points à prendre aujourd'hui, donc c'est jamais.
Ah oui,
mais faut franchir, s'impose. Il faut franchir la ligne en premier.
Van Aert est loin derrière, évidemment, à la protection de ces deux leaders pour le général. Ça peut être une bonne journée. C'est pour ça qu'on est toujours très. On se demande ce qui va se passer pour Wout van Aert aujourd'hui. Lui qui est donc maillot jaune, maillot vert de ce Tour de France, vainqueur d'étape, 3 fois deuxième, qui est vraiment l'homme de ce début de Tour de France. On a vu des coureurs remonter à la portière. Allez,
marrant l'image. Il avait une clé, bidouillait lui-même sa potence, donc le mécano lui a donné une clé et en roulant il a resserré ça, je crois que c'était sa potence, j'ai pas bien vu ce qu'il a bidouillé, mais il a fait la mécanique lui-même, Simon Clark.
2 minutes 50 d'avance pour les 6 hommes de tête à 122 km de l'arrivée. Dans un instant donc le sprint intermédiaire, on accueille dans un instant Johan Bredov pour les paris. Oui, les paris.
Salut messieurs. J'ai pas mon jingle.
T'as même plus de jingle.
Bah non, ça c'est dingue.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
C'est fou.
Les paris RMC.
Ah ! Ça on aime, hein.
Il faut pas oublier le jingle,
oui.
Johan, autrement il ne peut pas parler.
Exactement, je l'ai interdit.
Bon, ça va Johan?
Bah oui, ça va très bien, je suis en tête au classement du maillot jaune et grâce à la victoire de Wout van Aert. Mais c'est surtout Bernard Hinault qui est en tête, hein. Un pari, messieurs, il nous a tous mis dedans. Un pari, un réussi. Ah, c'est pas mal quand même comme ratio.
Ah bah oui, ce n'est pas Blaireau qui veut quand même, hein.
Exactement.
Bon, alors les principaux favoris du jour, tu vas nous donner les cotes évidemment.
Bah oui, c'est Mathieu Van Der Poel, le grand favori, il est coté à 4,50. Ensuite on a Wout van Aert évidemment qui est encore là, coté à 7. Mats Pedersen à 12. Et ensuite on a un Tuor, messieurs, et c'est bien ça, ils sont 4. Yves Lampaert, Peter Sagan, Florian Sénéchal et Taco van der Hoorn. Et eux, ils sont cotés à 15. Voilà, messieurs.
Ah oui, ça c'est pas mal évidemment pour ceux qui doivent se refaire la cerise en matière de paris. Et quand je pense à se refaire la cerise, je pense évidemment à Cyril Guimard qui n'est pas au mieux au classement. Alors ton pronostic du jour, ton favori?
Il me semblait avoir donné Pedersen hier.
Mats Pedersen.
Ça m'a donné Peter Sagan, Cyril.
Donc avant-hier, Mats Pedersen.
Bon.
Oui, c'est ça.
C'est vrai que si t'en donnes 15, t'as peut-être une petite chance de gagner.
Alors t'as le droit de changer, mais tu perds des points. Si tu veux changer, tu peux.
Pourquoi vous dites que je change?
Ah ben je sais pas.
Alors tu dis Sagan ou tu dis Pedersen?
Bah Sagan bien sûr.
Ouais, okay. Un champion du monde de toute façon.
Oui voilà, c'est ça. Côté à 15, Peter Sagan.
il a pris des tubeless et il a pris du matériel
mécanique
de l'ancien temps.
Ok, donc Peter Sagan pour Cyril Guimard, Jérôme Coppel.
Alors moi j'avais pris une très grosse cote. Oui. En plus il a deux équipiers devant, c'était Alberto Bettiol.
Exactement.
Donc là je pense que s'il gagne, je suis tranquille jusqu'à Paris.
Ouais, il est coté à 100 et quand tu l'as pris hier, il était à 180.
Pas mal.
Je te l'ai fait à 180.
Et là, c'est quand même un ancien vainqueur du Tour des Flandres. Il a deux coéquipiers à l'avant, ça peut être intéressant.
Ok, Bettiol donc pour Jérôme Coppel. Arnaud Souk. Arnaud, hier on ne t'a pas entendu, tu as communiqué, je crois. Oui. Périchon, c'est ça. Hein.
À la Philippe.
J'hésitais entre deux néerlandais, Dylan Van Baarle et Mathieu Van Der Poel, mais je vais dire Mathieu Van Der Poel.
Okay. Bah moi je l'ai déjà dit hier, tu pourrais en trouver un autre. Non, tu veux pas en trouver un autre?
J'en ai rien à faire, moi ce qui m'intéresse c'est de gagner moi.
Oui, 4,50 okay. Mathieu Van Der Poel.
Ok, maintenant il marque à la culotte, dès que je donne un nom, paf, il prend le même, comme il a un peu d'avance, il est sûr de gagner comme ça à la fin. Monsieur Leroux.
Moi ma devise, c'est important, c'est de participer.
Oui, ça on le sait. Hein. Donc tu n'as jamais gagné au Paris.
Non, c'est mais j'ai placé un homme dans l'échappée devant, ce bon vieux taco, parce que j'ai parié sur Alexander Christophe. La cote était à 40 hier, c'est ça?
Même 50, ouais, elle était à 50
ouais,
hier.
Ouais, 50. Je te la fais à 45 si tu veux.
C'est pour toi que je dis ça. Je le sers. Eh ben, il est toujours à 50, tiens, Alexander Christophe.
Très bien, très très bien ça.
Eh oui, bon. Ça c'est pas mal. Et moi j'avais parié sur Florian Sénéchal, mais
eh oui, bien sûr.
Côté à 15, France. Florian.
Eh oui, malheureusement, il a abandonné ce matin. Non, c'est pas vrai.
Tu fais peur à tous ces supporters qui nous écoutent. Non, mais il est malade ce mec. Très bien, merci Johan.
Merci à vous.
On te retrouve tout à l'heure ce soir, évidemment, pour faire le point sur les paris.
À tout à l'heure.
Allez, 14h42, on revient sur la route du Tour de France, 118 km. On approche du sprint intermédiaire, Pierre-Yves.
Oui, on sent qu'il y a de la tension aujourd'hui entre les pavés et puis l'approche de ce sprint. Ça va se lancer dans quelques instants. Le sprint de Mérigny, situé à 119,8 km de l'arrivée, très précisément. 2 minutes 52 d'avance pour les hommes de tête. Alors forcément, il y a moins de points à aller chercher aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup déjà de distance. On va voir si ça bagarre pour quelques points dans un kilomètre maintenant avec à l'avant les coéquipiers de Jasper Philipsen qui, faut lui dire, hein, qu'il y a du monde devant parce que s'il lève les bras au moment du sprint intermédiaire, 9 points pour le premier qui va passer dans quelques instants. Les autres points ont été distribués aux échappés. L'équipe Total Energy pour Peter Sagan qui a pris les devants. Pourquoi pas aller chercher quelques points. On aperçoit Wout Van Aert également. On aperçoit les Alpecin sur la gauche de la route. Pour l'instant, ce n'est pas lancé. Ça va pas tarder. On est à 500 mètres désormais. C'est tranquille hein, pour le moment. Ça lance pas fort du côté de Mathieu Burgaudeau qui est à l'avant dans les premières places là avec Christophe Laporte qui lui va lancer pour Wout Van Aert. Peter Sagan à ses côtés, le maillot vert de Jakobsen, c'est pas encore à fond, ça va accélérer désormais, 200 mètres à parcourir avec Jakobsen qui se lance sur la droite de la route, du vert et du jaune. Wout Van Aert en deuxième position, Laporte qui se relève et c'est Jakobsen qui va passer en tête devant Wout Van Aert, devant Laporte et devant Peter Sagan.
Voilà, Jakobsen qui n'a pas abandonné toute velléité et toute ambition de rapporter ce maillot vert. Pour l'instant, il le porte, ouais. Mais il n'en est pas le leader au classement. Allez, 117 km de l'arrivée. On revient dans un instant sur la route du Tour. Premier secteur pavé, à quel kilomètre, Pierre-Yves?
Oh, c'est loin encore. Hein, et ah ouais, il sera à 77 km de l'arrivée. Donc, il reste 40, un peu plus de 40 km.
40 km avant l'enfer du Nord. Il est 14h45, vous êtes sur RMC, on revient dans un instant pour la suite de l'Intégral Tour.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
La cinquième étape du Tour de France. Aujourd'hui entre Lille et Wallers. Toujours sous un beau soleil, quelques nuages d'altitude, mais rien de bien grave. Pas de pluie annoncée dans les jours qui viennent. Oui, Arnaud, on t'entend.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que vous m'avez mis dans les oreilles.
Ah, on lui a mis des choses dans les oreilles, Arnaud, qui est en train de nous parler.
Allô, c'est la moto RMC.
Oui, bah, on l'entend, la moto RMC. Mais oui, ça va, Arnaud, comment ça se passe?
Là, je n'entends plus rien.
Ah, bah, alors, dans ce cas-là, tu la fermes. Mais je Je pense qu'il ne nous entend pas non plus.
Non.
On a perdu Arnaud Souk.
On a perdu Arnaud Souk. C'est lui qui nous a perdu. Il est tout seul sur la route avec Marco, évidemment. Tous les deux sont ensemble. On est à 113 km de l'arrivée de cette étape. On approche tout doucettement, évidemment, du premier secteur pavé. On va faire un tout petit point quand même sur la course pendant que Pierre-Yves est en train de bricoler. Il n'a plus d'image non plus. Voilà, plus de son, plus d'image. Ça va être difficile de faire l'intégral tour comme ça.
Mais si, bien sûr, ça va
bien
se passer.
Tu as plein de choses dans les oreilles.
Ça va bien se passer. On a d'autres moyens d'avoir des informations. Heureusement, 112 km de l'arrivée. 2 minutes 40 d'avance pour les hommes de tête. Ça va se préciser tranquillement. Taco van der Horn, Magnus Kortnissen, Alexis Goujard, Nelson Poles, Edvald Boasson-Hagen et Simon Clark sont en tête de cette étape. Le peloton, lui, a accéléré pour le sprint il y a quelques instants, sprint intermédiaire. Et ça roule dur derrière. Oh, dur, non. Ça roule régulièrement, dirons-nous. On maintient l'écart pour le moment. Donc, 2 minutes 35 pour les 6 hommes de tête.
2:35 d'avance, mon cher Pierre-Yves. Depuis hier, nous avons donc découvert la photo finish, cette nouvelle petite rubrique que tu consacres évidemment aux grandes histoires du vélo. C'est parti pour la photo finish du jour.
Oui, j'ai voulu revenir. Exactement. J'ai voulu revenir aujourd'hui sur ce qu'on a vécu hier, les fausses joies. Hein, on a vu avec Jesper Philipsen. Symboliquement, je vous emmène au 17 juillet 1988, qui marque peut-être une rupture dans l'histoire du cyclisme français. Fini les 6-7 victoires bleu-blanc-rouge par grande boucle. Le ciel bleu est derrière pour les tricolores qui ont mangé leur pain blanc et vont désormais voir rouge. Et pourtant, ce 17 juillet, quand Philippe Bouvatier place un démarrage à 350 mètres de l'arrivée à Gusenège, je sais devant ma télé que la grande carcasse de Massimo Girotto est trop lourde pour réagir et que le bondissant Robert Millard réagit un peu tard. Mais à 150 mètres de la ligne, il y a un virage à gauche avec un gendarme au milieu qui fait des grands gestes avec ses bras. Mais l'indication, c'est pour les VO ou pour les voitures suiveuses? Et là, Pino, simple flic, se transforme en inspecteur la bavure. En général, la dérivation et le virage, c'est pour les voitures. Bouvatier choisit donc d'aller tout droit, suivi par Robert Millard, et se retrouve dans le parking. Silence, la voix de Daniel Mangias a disparu, les petits oiseaux chante. Et malgré une réaction rapide des deux coureurs pour revenir sur la bonne route, Massimo Girotto est tout surpris de se retrouver seul sur la ligne. Ah, c'est un Tolomaï, ils l'ont disparu. Ça, non, ça c'est plus Garcimore que Girotto, j'en conviens. Les fausses joies peuvent être de différentes natures. L'erreur d'aiguillage, c'est rare. En revanche, le vrai coitus interruptus pour le gars de la pédale, c'est quand vous levez les bras trop tôt en pensant avoir gagné. Souvenez-vous de Julien Alaphilippe en 2020, à l'issue de Liège-Bastogne-Liège, les bras en croix avec son maillot de champion du monde qui sort pour la première fois. Il n'a même pas encore enlevé l'étiquette avec le prix et il ne voit pas Roglic dans son angle mort lui souffler une victoire de prestige. Faute professionnelle, avait-il dit. Un Jumbo qui gagne, un Jumbo qui perd. Wout van Aert sur le Dauphiné déploie ses ailes trop tôt sur la ligne de chasse très sensi. En attendant, Godu se glisse sous son épaule du petit Wout, mais du grand art. La pire des fausses joies, c'est quand tu ne sais pas si tu as gagné. Ta roue et celle de ton voisin sont passées en même temps. Tu regardes l'adversaire qui te fait la même tête du gars qui n'a pas la réponse, comme à l'oral du bac quand on te dit l'auteur de Polyuk, c'est Racine ou Corneille? Voilà, c'est peut-être là, exactement. Je vois, Christophe, tu cherches l'auteur de Polyuk, c'est Racine ou c'est Corneille? Un choix cornélien. Voilà, comme ça, vous avez la réponse. Le 10 avril dernier, Benoît Cosnefroy et Michał Kwiatkowski commençaient, eux, à prendre Racine derrière la ligne. Impossible de savoir qui avait gagné l'Amstel Gold Race. Et puis, finalement, un commissaire l'a annoncé, Cosnefroy, vainqueur. Ouais, embrassade, pleurs de joie, les équipiers se congratulent. Ah zut, on s'est trompé. Vainqueur, Kwiatko. Celle-là, elle fait mal, hein. C'est pas possible des erreurs comme ça. Aux Oscars, on ne se tromperait pas sur le nom du meilleur film. Vous imaginez, l'Oscar du meilleur film est attribué à La La Land. Ah non, je me suis trompé, en fait, c'est Moonlight. Je vous le donne en mille. Faye Dunaway, elle l'a fait en vrai. Je me demande d'ailleurs si elle ne s'est pas reconvertie en commissaire à l'Amstel pour faire la misère aux petits Français. Et puis, il y a les fausses joies plus drôles. Annemiek van Vleuten qui pense être championne olympique l'an passé, oui, ou Alberto Bettiol au Tour de Suisse qui lève les bras en gagnant le sprint. Et à chaque fois, je me marre, c'est vrai, devant ma télé. C'est très bien que depuis quelques secondes, le vrai vainqueur est déjà passé. Je sais, c'est cruel de rire du malheur des autres. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, Philippe Sen.
Oh là là, la plume de Pierre-Yves Leroux pour cette photo finish qu'on retrouve régulièrement dans l'intégrale. Tout, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, messieurs, de connaître des joies qui se sont transformées en peine derrière? Jérôme, tu as souvenir de ça?
Tu sais bien que j'ai pas beaucoup gagné, moi, donc ça, j'avais peu de chance que ça m'arrive. Non, j'ai jamais eu de fausses joies comme ça. Après, j'ai eu plus dans le style de Van Aert où j'avais le meilleur temps sur un chrono et que je me faisais battre juste à la fin pour quelques secondes, mais pas comme Philippe Sen hier. Alors déjà, ça allait sûrement pas m'arriver au sprint, mais non, j'ai pas eu ça. Peut-être Cyril, parce que en tant que grand sprinteur, ça lui est peut-être déjà arrivé de lever les bras trop tôt.
Puis il y avait pas la photo finish hyper performante.
Alors je vais vous décevoir.
Mais t'as fait pleurer,
Je vais vous décevoir. C'est le contraire qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, c'est moi qui passais
de long, quoi,
qui passais sous le bras et qui gagnait. Ah non, je suis pas l'un de long. Vous avez la preuve par image. Attendez. Si à chaque fois que je dis que j'ai gagné, je suis Alain Delon.
C'est-à-dire que l'autre levait les bras et toi tu passais.
Et voilà, il y a eu également Mariano Martinez sur un critérium du Dauphiné.
C'est pour ça que Eddy Merckx t'appelait le rat, parce que tu passais en petit.
Vous savez qu'un rat c'est très intelligent.
Ah ben oui, ça on n'en doute pas. On sait que tu es très.
Et qu'il a une vie sociale très, très, ouais, très importante.
Ça refile des maladies par contre.
Pourquoi plus que d'autres choses?
Très bien.
C'est quand même les rats qui nettoient nos égouts à Paris, quand même.
Fait, donc, tu as fait pleurer Eddy Merckx, fait. Non, tu l'as pas fait pleurer, quand même.
Non, il est pas assez sensible pour
il
ça.
Pas assez sensible, le calibre. Il a eu l'occasion de se rattraper, évidemment. Très souvent, après ces quelques défaites infligées par notre druide Cyril Guimard. Cyril. Donc on en parlait tout à l'heure, cette tranchée d'Arambert, toi tu l'as franchie. Tu aurais pu gagner Paris-Roubaix. Quel a été ton meilleur classement sur Paris-Roubaix?
Mon meilleur classement, ça a été en 69 où je fais 7e.
7e.
Voilà. Donc on était parti dès le départ avec José Samin qui malheureusement est parti très tôt à la suite d'une chute. Et on est parti tous les deux. On a été rejoint par une quinzaine de coureurs, dont ceux qui ont fini devant nous, puisqu'en fait l'échappée va au bout.
Alors, tu avais pourtant toutes les qualités pour gagner Paris-Roubaix. Plutôt malin.
Très bon sprinter.
Formé à l'école du cyclocross, donc tu savais évidemment tenir sur les pavés. Mais il faut aussi du bol, il faut aussi de la chance. Le paramètre chance est très important sur Paris-Roubaix.
Alors, est-ce que la chance existe? Ça, c'est encore un autre problème, car on remarquera que souvent, ceux qui crèvent sont les mêmes ou ceux qui chutent sont les mêmes, et qu'il y en a certains qui, plusieurs années de rang, passent sans avoir de problème sur Paris-Roubaix. Non, moi, j'avais les qualités éventuellement pour remporter Paris-Roubaix. J'aurais pu le remporter en 74, mais on passait la tranchée. Malheureusement, j'ai été victime d'une première chute. Et puis, en troisième position, d'ailleurs, c'est Carsten qui chute juste devant moi. Il y avait Merckx, Carsten, c'est moi, dans le pont Gibus. Enfin, il ne s'appelait pas le pont Gibus à l'époque.
Gibus en hommage et puis, à Duclos Lassalle, évidemment.
Et puis, au moment où je reviens avec Gianni Motta, il y a une moto de la télévision qui chute devant nous et ça a été fini. Quoi. Voilà. Donc, ça s'est arrêté là. Mais j'avais aussi un gros problème à cette période de l'année. C'est que j'étais très ennuyé par les sinusites et les bronchites.
Ah oui, allergie.
Et donc c'est une période où je ne marchais pas énormément. J'ai marché que deux fois. Mais les autres fois, j'étais un petit peu emprunté. D'ailleurs, pour la petite histoire,
La petite histoire, on la racontera après les infos de 15h, parce que là, sinon, on va. Si tu nous racontes tes petites histoires, les infos, c'est à 18h, tu vois. Donc là, il y a quand même.
Mais on s'en fiche, les infos à 18h.
Il y a Clément qui attend, qui a travaillé et qui veut partir sans son flash à l'heure. Donc tu nous raconteras la suite tout à l'heure. Voilà, c'est un beau teasing. À tout de suite sur la route du Tour.
RMC, Intégral Tour.